Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, bien entendu. Avec au sommaire du jour, un Barcelone-Chelsea, belle affiche de ces matchs retour de Ligue des Champions. Les Blaugrana, maîtres en leur Camp Nou, pourraient-ils être éliminés par ces Blues qui les avaient fait douter à Londres, grâce notamment à Willian? Et puis Ousmane Dembélé pourrait-il être titularisé dans ce match retour, lui qui doit se montrer s'il veut aller en Russie cet été? Nous en parlerons notamment avec vous, Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour.
Vos lumières, Blaugrana. La Juventus, en pleine réussite, reprend les commandes du Calcio, propulsé par son duo argentin Higuaín-Dybala, les buteurs indispensables des Bianconeri. Naples, distancé d'un seul point, semble perdre ses nerfs. Matteo Cioffi nous en dira plus sur ce suspense qui durait depuis 11 semaines et pourrait s'arrêter là. Un nouvel épisode autour de Neymar. Ses patrons lui ont rendu visite et sur la photo de famille, tout semble aller pour le mieux entre le PSG et sa star. Mais cette visite est évidemment stratégique et nous vous dirons pourquoi. On compte sur vous, Philippe Doucet, bonjour.
Merci, Lucado. Bonjour, madame Annie.
Non, il n'y a pas que vous. Karine Gallier est là pour vous aider aussi. Bonjour, Karine.
Bonjour, Annie. Bonjour à tous.
Et puis Naïm Moniol. Bonjour,
salut, Annie. Salut à tous.
Éric Chorin, bonjour. Bon,
bonjour, Annie.
Vous aussi,
bonjour.
Vous avez des lumières.
Oui, enfin, quand elles sont bien allumées.
Radio Foot, c'est parti. Des Blues au Camp Nou pour arracher leur qualification. La rencontre entre le FC Barcelone et Chelsea promet donc une belle rencontre. Après le match aller, qui à Stamford Bridge s'était achevé sur le score de 1-1, Hazard et ses camarades savent qu'ils doivent marquer au Camp Nou. Willian avait bien failli marquer un triplé au match aller.
Eden Hazard dans la surface, qui trouve du soutien avec Willian.
Il avait la solution Pedro, il n'a pas voulu centrer.
C'est Willian pour l'instant. Oh, c'est le poteau qui sauve le Barça et Ter Stegen. Quelle frappe déclenchée par Willian. Il fallait le prendre, ce ballon, Sergio Roberto. Il met la menace Pedro, c'est pas terminé avec Willian.
Oh, l'autre
il a
poteau.
Touché les deux poteaux.
Incroyable.
Le gauche et le droit. Et oui, il est tout seul à l'entrée de la surface. Willian. Cette fois, c'est au fond. Après avoir touché deux fois le montant, Willian laissé seul, trop seul à l'entrée de la surface. Mais le ballon au fond des filets, ça fait 1-0 pour Chelsea.
1-0, Willian avec beaucoup de regrets puisqu'ensuite le Barça allait égaliser. En fait, ce défi entre ces deux équipes, Éric Chorin, est sans cesse renouvelé entre Barcelone et Chelsea. Chelsea et Barcelone, c'est un match qu'on dispute sur une très longue durée.
Ouais, c'est un peu une partie de l'histoire du football européen. Au Camp Nou, demain, ça sera le 14e face-à-face entre les deux clubs en Ligue des Champions. Et cette confrontation en match aller-retour depuis 19 ans, en demi-finale, en quart, en huitième, en phase de poule. Le bilan comptable des 13 matchs joués jusqu'ici atteste que ça a souvent été très disputé pour ces matchs entre les deux clubs. 6 matchs nuls, dont le 1 partout à l'aller cette année, pour 3 victoires du Barça et 4 de Chelsea. La stat qui fait pencher la balance en faveur du Barça, c'est que Chelsea n'a jamais gagné au Camp Nou, mais ce qui peut inquiéter le club catalan, c'est qu'il a concédé 4 nuls à domicile face à ses Blues et qu'ils ont marqué lors des 3 d'entre eux, et notamment lors de la demi-finale retour resté dans toutes les mémoires en 2012, on s'en souvient encore.
C'est une sorte de classique du football européen,
oui,
Philippe.
Oui, c'est un vrai classique. Celui-là, c'est un vrai de vrai. C'est
un vrai. On met pas d'accent, ni O, ni A, ni rien.
Cela dit, il est relativement récent également, puisque Chelsea redevenu un club important qu'à la fin des années 90, et un peu plus même quand Abramovich est arrivé en 2003, si je ne me trompe pas. 2003, oui, je crois que c'est ça. Mais c'est devenu effectivement un grand classique, avec quelques moments dont tout le monde parle encore. L'arbitrage une fois à Stamford Bridge, l'élimination ce soir-là par un but d'Iniesta à la dernière minute, quelques moments effectivement un peu sidéraux et un peu sidérants.
Mais 2009 ça,
hein, c'est 2009, ouais. Mmh. Mais depuis, il y a eu effectivement cette demi-finale 2012 où le Barça aurait dû se qualifier 17 fois, tant à l'aller qu'au retour, mais bon, c'était la l'année de l'étoile Chelsea, il n'y avait rien à faire pour les battre. Tout le monde était meilleur qu'eux, mais personne ne les a battus, donc voilà.
Et c'est vous qui le dites, c'est pas Alejandro,
oui,
donc c'est intéressant.
Cette année-là, honnêtement, Chelsea avait beaucoup de réussite et un Drogba tout à fait étonnant pour arriver en 2012 avec sans doute la plus mauvaise équipe de Chelsea de l'histoire à gagner la Ligue des Champions cette année-là, justement.
Il y a un entraîneur qui est arrivé depuis 5 mois seulement.
Et qui est reparti dans la foulée, d'ailleurs, en plus.
Ouais. Di Matteo qui avait pris le relais en cours de saison, donc il avait conduit jusqu'au titre avec ce but de Drogba. Et puis 5 joueurs qui étaient soit sur la feuille de match seront de l'aventure demain. Ils étaient tous catalans, 3 du côté de Barcelone encore aujourd'hui et 2 qui sont passés depuis du côté de Chelsea. C'est ce que Fabregas et si je ne m'abuse,
Pedro
qui n'était pas entré en jeu. Et de l'autre côté, on a Messi, Iniesta et Piqué. Et ils avaient été un peu piqués justement cette année-là.
Quand on est joueur justement d'un côté du match, comme l'ont été Fabregas et Pedro de Barcelone, et qu'on passe de l'autre côté, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête du joueur? Est-ce que ils sont ultra professionnels et que finalement pour Fabregas et Pedro retourner au Camp Nou pour jouer contre certains de leurs anciens camarades,
ils sont surmotivés forcément parce que c'est l'occasion.
Surmotivés.
Ah oui.
À l'aller, ils étaient transparents les deux.
Oui.
j'espère qu'ils seront surmotivés
mais
demain.
Je pense que au Camp Nou c'est spécial et pour les deux retrouver les Camp Nou, retrouver ce public,
cette ambiance
a un goût particulier. Et je pense qu'ils ont tous les deux.
Pourrait se tromper de côté.
Envie de montrer à Barcelone que.
Mais ils aimeraient bien se tromper de côté parce que avec Chelsea ils n'ont pas touché la balle au match retour. Ils vont pas beaucoup la toucher au match.
Au match aller,
je veux dire, ils vont pas beaucoup la toucher au match retour non plus. C'est une autre stratégie, c'est un autre football.
Disons que pour Barcelone, ce qui est important, c'est de retrouver un peu les sensations qui étaient les siennes en début d'année et qui se sont un petit peu perdues en février-mars. Il y a eu une accumulation des matchs, une accumulation des fatigues. On a senti le Barça moins bien. Et là, c'est l'occasion de prouver que les choses, les sensations reviennent. Ils ont eu un peu de repos. La semaine dernière, ils n'ont pas eu de match à jouer en semaine. Ils ont eu un déplacement relativement tranquille à Malaga ce week-end. Messi a pu se reposer alors que son troisième fils naissait. Donc, tout est plutôt favorable pour que Barcelone retrouve un peu ses jambes et son envie et son allant de début d'année.
Justement, au coup d'envoi, Barcelone est qualifié, Karine. Quelle stratégie peut adopter Antonio Conte? Comment finalement réussir eux? Parce que le but c'est de marquer, puisque les Blaugrana ont marqué à Stamford Bridge.
Je pense qu'on verra exactement le même match qu'on a vu à Stamford Bridge. C'est deux oppositions tactiques, mais ce qu'avait mis en place Antonio Conte, ces joueurs l'avaient parfaitement fait. Alors il y a une erreur, c'est Christensen qui fait cette passe latérale. Et évidemment, quand t'as le Barça et surtout Messi en face, une seule erreur peut se transformer en but. Mais moi j'avais adoré le match de Chelsea parce que on l'a rappelé avec les commentaires, à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, ils se projetaient extrêmement vite vers l'avant et ils ont touché deux fois les montants avant que Willian ne marque. Donc moi j'avais trouvé que le match de Chelsea était bon et en plus leur prestation collective était plutôt bonne alors qu'il y avait des individualités qui à mes yeux étaient passées à côté. Moi Hazard en faux neuf, je trouve que ça ne marche pas du tout et j'ai trouvé qu'il avait été très décevant dans ce match-là. J'ai parlé également de Fabregas ou de Pedro, donc c'est-à-dire que tous les joueurs défendaient parfaitement bien dès qu'ils perdaient le ballon, ils se mettaient avec les deux lignes et ils se projetaient très vite quand ils récupéraient le ballon, ça a très bien fonctionné et ils sont obligés de faire la même chose, c'est ce qu'ils savent faire de mieux avec le Chelsea d'Antonio Conte et c'est ce qui gêne le plus aussi le FC Barcelone. Ces deux oppositions là sont parfaites. Si Chelsea avait une autre équipe en face, ça aurait été plus compliqué, mais casser ce jeu de possession du FC Barcelone en contre, Chelsea sait le faire et Barcelone s'est cassé les dents aussi face à Chelsea.
La différence, Karine, c'est qu'aujourd'hui Barcelone sait défendre. On l'a vu face à l'Atlético, ils ont marqué un but et ils ont tenu le résultat. C'est quelque chose qui est nouveau à Barcelone. Et aujourd'hui, Barcelone est qualifié au coup d'envoi, donc je pense qu'ils n'auront pas les espaces qu'ils ont eu au match aller.
C'est aussi la grande différence avec le match aller. Je suis pas entièrement d'accord parce qu'ils sont éliminés au coup d'envoi de Chelsea. Hein. Donc s'ils restent dans leur moitié de terrain en disant ce qui était bien au match aller, c'est qu'à la rigueur, le Barça avait besoin de marquer à Stamford Bridge, donc casser la possession, se projeter vite en contre, il pouvait le faire. Le Barça va pas forcément ouvrir le jeu puisqu'il est déjà qualifié. Donc si Chelsea joue aussi bas, sachant que c'est une équipe qui a quand même de gros problèmes offensifs, on a parlé des deux poteaux de Willian, enfin c'est quand même une équipe qui régulièrement marque un but sur 4, 5, 6 occasions créées. Si elle veut marquer et marquer beaucoup, elle va devoir beaucoup plus se projeter vers l'avant, essayer de monter un petit peu plus haut. Donc je vois pas la même physionomie qu'au match aller.
Est-ce que ça peut permettre du coup à certains joueurs de rentrer sur le terrain, d'être utilisés comme Olivier Giroud? Enfin, je pense au bleu.
Giroud, il y a Morata dans tous les cas.
Il y a la Romata.
Comté est un traditionnaliste, il changera rien, il changera même pas. Je rejoins complètement Karine, il changera même pas de stratégie. Ils joueront globalement assez défensivement, ils commenceront peut-être vers l'heure de jeu à éventuellement essayer de sortir de temps à autre, mais vous verrez qu'ils jouent comme ça. L'autre fois à Manchester City, c'était sidérant, c'était un match brut, de match de première ligue, 1-0 pour Manchester City qui dominait mais outrageusement, c'était genre 82% de possession, et Chelsea, Conte a fait son premier changement à la 78e minute pour faire entrer Giroud et Morata à la 88e. C'est-à-dire, on se demande même s'il a même tenté quelque chose, c'est ahurissant, mais c'est comme ça.
Il n'y avait pas une qualification au bout aussi en championnat contre Manchester
City. C'est pire, parce que quand t'es mené 1-0,
l'issue du championnat se jouait pas sur ce match-là, et globalement ils auront d'autres occasions d'intégrer. Ils ont d'autres occasions d'intégrer le Big Four. Philippe, s'ils perdent ce soir, ils sont plus en Ligue des Champions.
Enfin,
quand même, ils perdent
contre
City, ils peuvent
mais
ils peuvent pas jouer aussi bas et se résoudre comme ils font au match aller.
On verra. Ils joueront en contre. Ils vont laisser la balle.
Mais entre laisser la balle dans ta moitié de terrain et essayer d'aller presser un petit peu plus haut, je pense qu'il y a une différence quand même.
Ah, ils presseront pas, mais par contre, quand ils contreront, ils pousseront les actions.
Mais c'était quand même la plus belle opposition des huitièmes de finale. En tout cas, moi, c'était le match qui m'intéressait le plus. Et moi, je me suis régalé. Alors après.
Tottenham.
T'as été surpris de voir quand même une vraie opposition à Tottenham. À la base, c'était quand même plus déséquilibré. Moi, j'ai adoré. Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas Chelsea. Moi, j'adore Chelsea. J'adore ce que propose Antonio Conte parce que c'est bien fait et parce que c'est quand même pensé. C'est pas juste essayer de défendre. C'est défendre
parfaitement
bien. Heureusement
que tout le monde joue pas comme ça quand même. Hein.
Oui, mais moi, ça me plaît et j'aime des joueurs qui suivent les directives d'un entraîneur à la lettre. Et Antonio Conte, même s'il est compliqué, ces joueurs le suivent à la lettre et font exactement ce qu'ils demandent, et c'est une partition qu'on aime ou pas, mais ça en est une. Et honnêtement, j'ai trouvé que cette opposition était passionnante, et je pense que demain on aura encore un grand match. Alors les gens qui n'aiment pas ce que propose Conte et Chelsea, évidemment, et c'est pas le football qu'ils aiment. Moi, ça me plaît aussi, et je pense que ça sera encore intéressant.
Mais c'est quand même une équipe effectivement limitée offensivement, parce que Willian marque souvent des buts, Hazard moins souvent.
Quand une équipe achète un attaquant au mois de décembre, c'est-à-dire qu'offensivement, il y a un manque. Automatiquement, on savait qu'il était court en quantité, l'effectif. On a vu sur la première partie de saison qu'il était court.
Il a remplacé un remplaçant par un remplaçant.
Oui, Batshuayi qui ne jouait pas. Hazard et Pedro ne sont pas non plus des grands buteurs, donc
Il y a Morata quand même.
Oui, Morata marque des buts malgré fait que ça a priori c'est un peu compliqué à côté du foot, il marque des buts.
Mais je crois qu'il jouera pas ce soir non plus. Enfin demain soir, il jouera
pas. Non, a priori non, il va rester sur les mêmes joueurs.
Ouais.
Alejandro, alors ce Barcelone, on imagine que quand même dans la philosophie de cette équipe, c'est aussi d'aller marquer des buts, ils vont pas se contenter
ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une équipe qui va forcément laisser des espaces inconsidérés aux contre-attaques des Chelsea. Après je pense que Barcelone va essayer effectivement de gagner. Si on se rappelle au match aller avant les tirs de William, Barcelone avait dominé outrageusement les 20 ou 30 premières minutes.
Avoir de véritables occasions, hormis la tête de Paulinho qui n'est pas du tout cadrée.
Beaucoup d'occasions, ça c'est vrai. Mais je pense que Chelsea
n'en avait pas non plus. Hein, les poteaux de William, c'est des performances individuelles. Occasions. Très net. À l'arrivée, c'est une occasion, mais au départ, on le sait pas. Hein.
Mais
si
là,
ce
sera peut-être l'occasion de tester des choses. On a vu déjà samedi en Barcelone sans Messi, puisqu'il jouait pas, et du coup, on a vu un Barcelone qui jouait différemment, parce que c'était pas la classique donner les ballons à Messi et attendre qu'il sorte quelque chose de génial. Et on a vu un Dembélé, par exemple, qui était inspiré, qui a semé quelques défenseurs. Bon, c'était Malaga, c'est pas Chelsea, mais ça peut donner des idées à Valverde quand même.
Eh bien oui, justement, la question c'est, est-ce que Valverde est en train de mettre Ousmane Dembélé titulaire dès ce soir? Alors, on sait que Philippe Coutinho ne joue pas dans l'équipe ce soir parce qu'il ne peut pas jouer en Ligue des Champions.
Demain soir.
Décidément, on veut que ce soit ce soir le match, alors que c'est demain.
La patience.
En tout cas, ce Felipe Coutinho, il a joué à Malaga et ils se sont très bien entendus, les deux joueurs sur le terrain, à tel point, qu'il tresse des lauriers à son camarade de jeu, l'international français.
J'ai eu de la chance samedi dernier en marquant contre Malaga. La sensation est toujours la même, mais je sais que tout le mérite revient à Ousmane Dembélé qui m'a offert cette passe décisive. Je dois le remercier. C'est un grand joueur. Il a fait une excellente saison au Borussia Dortmund. Nous sommes tous les deux arrivés cette saison et nous apprenons peu à peu la philosophie du Barça et comment comprendre le football ici. On commence à s'y habituer.
Le jeune Felipe Coutinho, Alejandro Valente, est-ce que vous pensez que Dembélé peut ce soir débuter le match demain soir? Décidément. Il faut dire mercredi, c'est mieux au moins. Oui, 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 mercredi soir.
On a l'impression quand même que Valverde ne veut pas l'exposer de façon prématurée et je pense qu'il a peut-être le profil plutôt pour entrer en cours de match, mais c'est pas impossible. Je pense qu'il va privilégier encore Paulinho comme comme option à compléter les duos offensifs Messi-Suarez, mais je pense que Dembélé va avoir probablement plus de temps de jeu qu'il n'en a eu jusqu'à présent. En tout cas, on sent qu'il y a une volonté politique à Barcelone de mettre en confiance et de mettre en valeur Dembélé, même si sur le plan comptable, c'est pas encore extraordinaire. Et tout le monde est conscient à Barcelone que ce jeudi, il y aura la liste des Didier Deschamps, que Dembélé rêve d'aller à la Coupe du Monde et qu'il faudra, à un moment ou à un autre, qu'il puisse avoir le temps de jeu qui le lui permettrait.
Philippe, on veut mettre Coutinho, on veut mettre Dembélé en valeur. C'est parce qu'il a coûté cher?
Oui, je pense qu'il faut
140
pas,
millions
il faut
d'euros,
pas raisonner comme ça, parce que quand il y a Barcelone-Chelsea, évidemment que ni Valverde, ni même les dirigeants seront là à se dire, ah, quand même, ce serait bien que Dembélé joue ce match-là. Ça ne rentrera évidemment pas en considération. Là, on est sur un match qui est beaucoup trop important, et les choix de Valverde, ils seront ce qu'ils sont, mais ils seront pas motivés par des principes de ce genre-là. Quand on met Paulinho ou Dembélé, évidemment, c'est pas du tout le même choix. On peut penser, effectivement, comme El Refe, que Paulinho débute parce que le 4-4-2 est quand même devenu la norme au Barça depuis la blessure de Dembélé. Il s'est imposé depuis plusieurs mois, mais on sait jamais. On peut penser aussi qu'il ait besoin de d'élargir un peu l'équipe, qui parfois était un peu étriquée quand ils étaient en 4-4-2 justement contre l'Atlético ou autre. Il n'est pas impossible que Valverde nous fasse un coup. C'est un entraîneur qui surprend par la qualité de ses choix, très raisonné, très raisonnable. Il n'y a pas de choses extraordinaires, mais souvent on voit des petits ajustements intelligents et qui transforment un petit peu le Barça qui était, je veux pas dire qu'il était monolithique, mais il jouait toujours un peu de la même manière et lui il a changé un petit peu ça.
Comme Alejandro, je vois pas Dembélé titulaire mais rentrer en cours de match.
Et vous aussi donc.
Oui, même on s'était interrogé à Stamford Bridge puisque. Vu que les Barcelonais étaient quand même étaient menés au score, on aurait pu imaginer qu'ils rentrent en cours de match et qu'ils mettent un peu de folie dans la défense de Chelsea. Et finalement, il n'avait pas fait ce choix-là, mais mercredi, oui, il devra avoir sa chance. Mais après, je veux dire, nous, on est français, donc on veut qu'il ait du temps de jeu, etc. Mais enfin, les Espagnols, c'est pas leur priorité numéro un. Dembélé, s'il est parti faire la fête à Marrakech plutôt que d'être professionnel, c'est pas la faute de Valverde ou du FC Barcelone. Voilà. Après, Dembélé, s'il a sa place pour la Coupe du Monde, c'est qu'il l'aura mérité, mais il a fait un choix quand même risqué en allant au clash et en partant au FC Barcelone à un an de la Coupe du Monde, donc après qu'il assume.
Alejandro, ils essayent de le recadrer un peu, ce joueur. Justement, on parle de ses frasques, on sait aussi qu'il a eu des problèmes avec son chef cuisinier, c'est ça?
Oui, hein, disons que sur Marrakech, le club a répondu officiellement qu'il était autorisé, c'était un jour libre. Par contre, ils ont moins aimé qu'au retour de Marrakech, il fasse un détour par Paris, et là, ils ont trouvé
ça fait deux jours libres.
Il exagérait un petit peu. Que certains des petits plats que prépare le cuisinier mis par le Barcelone se retrouvent à la poubelle et qu'il commande des pizzas à la place. C'est pas forcément
quelque chose
qui va ravir longtemps le club, mais je pense qu'ils se disent que c'est un jeune homme et qu'il va peu à peu trouver devenir raisonnable.
Du coup, Deschamps, il a même pas besoin de regarder le match, en fait. Il va voir personne, hein, pour l'équipe de France. Par N'Golo Kanté.
Oh, il va avoir un petit quand même.
Bon, d'accord, je voulais savoir. Ouais.
Alejandro, une petite chose, le FC Barcelone, on apprend qu'ils ont acheté un joueur pour la saison prochaine.
Oui, Arthur.
Un autre Brésilien qui vient du Grêmio. Il a 21 ans, il est milieu de terrain. Il vient du club de Ronaldinho. C'est peut-être une belle référence. 39 millions d'euros pour remplacer qui? Xavi, Iniesta.
Il rêve d'en faire le nouveau Xavi. Iniesta, mais s'il faisait un demi Xavi, ce serait déjà excellent. Voilà. Mais bon, on verra à l'usage.
Un Arthur tout blond et qui viendra donc du sud du Brésil. C'est la fin de la première partie de Radio Foot International. On se retrouve juste après la pause et là, on prendra la direction de l'Italie.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Et la suite de Radio Foot International, toujours sur RFI avec Karine Galli, Philippe Doucet, Naïm Moniol, avec Eric Chorin. Le Jefe nous a abandonné pour la deuxième partie. Il a beaucoup de choses à faire.
Il n'y
a plus Barcelone, il n'y a plus l'Espagne. Et justement, on prend la direction de l'Italie.
E lo spot di Dybala che parte con il sinistro e trova l'incrocio dei pali. Grandissimo gol di Paolo Dybala. Attenzione a Higuain in area di rigore, il tocco per Dybala. 2-0 e doppietta per Dybala che va ad abbracciare Gonzalo Higuain. Ha sbagliato il rigore del possibile 2-0 il Pipita, ma poi...
Eh oui, deux buts de Paolo Dybala et le suspense en passe de s'évanouir dans la course au Scudetto. La Juventus de Turin, sextuple championne d'Italie, je vous le rappelle, vient de reprendre la tête du championnat en battant Udinese par 2-0 et en passant devant Naples. La Juve remporte donc ce match et surtout Naples se contentait par ailleurs d'un match nul à Milan contre l'Inter. Alors après 11 semaines en tête, eh bien Napoli est doublé par la Juventus. En Italie, on appelle ça le sorpasso. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour et bonjour au sorpasso.
Oui, je n'ai pas tout à fait votre accent, Matteo, mais dites-nous que dit la presse italienne de ce sorpasso.
Bah, Annie, il suffisait vraiment hier de jeter un coup d'œil sur les premières pages des principaux journaux pour s'apercevoir que la une, c'est Paolo Dybala qui l'a conquise. Un joueur qui cette année a eu des hauts et des bas, c'est vrai, mais qui en ce moment de la saison qui est crucial est vraiment en train de faire la grande différence. C'est aussi vrai qu'un grand mérite du succès de Dybala est dû aussi à l'excellente entente avec son coéquipier Gonzalo Higuain. Pour l'instant, dans cette saison, les deux à eux tout seuls ont réalisé 21 buts chacun. 17 pour Dybala en championnat, 14 pour Higuain. Mais ce qui fascine vraiment, c'est de les voir jouer ensemble. Ils semblent comme deux joueurs complémentaires. Dybala joue du gauche et est très agile. Le Pipita est droitier, physiquement puissant, pur avant-centre. C'est vraiment un duo parfait jusqu'à maintenant.
Karine, ce duo parfait, c'est eux qui sont à la manœuvre, on va dire, pour les Bianconeri. Les Bianconeri, ils avaient un peu mal commencé et du coup, on se disait, bon, c'est peut-être pas l'année d'encore un titre pour eux. Et malgré tout, ça fait la une parce qu'ils sont de nouveau en tête.
Oui, et on l'a vu notamment face à Tottenham, ce duo qui n'avait pas existé forcément pendant le match et qui se réveille et en trois minutes à eux deux, ben voilà, ils permettent à la Juve de se qualifier. Mais ce que je trouve qui est quand même très dur, c'est qu'on parle du ralentissement de Naples, mais ce que fait Naples, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que entre la défaite du mois de décembre, du début décembre, face à la Juve et la défaite face justement à la Roma, il y a eu que des victoires. C'est-à-dire que le train demandé par la Juve est absolument impossible à tenir. Naples fait une saison quand même qui est exceptionnelle, mais c'est que la Juve est totalement hors norme. Donc, j'ai pas l'impression que c'est Naples qui ralentit. C'est juste que la Juve, à un moment, est tellement stratosphérique. Quand tu fais autant de victoires entre décembre et donc le mois fin février, c'est énormissime ce que fait Naples. Mais la Juve est encore un cran au-dessus. Et en plus, cette qualification en Ligue des Champions, forcément, leur a donné des ailes. Alors que dans le même temps, eux, ils se sont arrêtés en Ligue Europa en gagnant 2-0 au retour, mais c'était pas suffisant pour rattraper le retard de l'aller.
On va y venir parce que Naples voulait peut-être choisir entre les compétitions. Mais Philippe, cette Juve, c'est toujours ça aussi. C'est ce train d'enfer, c'est aussi ces joueurs qui parfois renaissent sous le maillot Bianconeri et qui font que personne n'arrive à contester le titre de la Juve.
Vous avez défini ce qu'est un grand club, On entend beaucoup ce mot d'institution en ce moment. Bon, je pense qu'on peut l'appeler un club, tout simplement. C'est beaucoup plus simple.
Un grand club, on peut dire.
Très grand club, la Juve. Et évidemment, on sent bien que la mentalité est quasi toujours là. Et même en début de saison, je crois qu'il y a deux saisons, ils avaient fait pareil. Un début de saison catastrophique.
On se souvient, c'était avec la Roma, il me semble,
quand la Roma de Rudy Garcia était très bien partie. C'était peut-être il y a trois ans. Ils avaient fait un début complètement raté. Ils avaient, je sais pas combien de points de retard. Mais c'est inexorable. On sait que derrière, ils vont faire leur série. Là, ils sont à 11 victoires consécutives. Ils finissent, peut-être qu'ils perdront plus un seul point d'ici la fin de saison. Peut-être. Tout est possible. C'est comme ça. Bon, alors ça reflète, le grand sérieux de cette équipe et de ce club qu'il faut jamais enterrer, même s'ils ont une équipe de 30 ans de moyenne d'âge. Et alors, so what? L'esprit est toujours là, évidemment. Et puis ça reflète aussi, il faut bien poser le problème aussi, un problème commun à tous nos championnats, tous les grands championnats européens. On a un vrai problème, c'est que les écarts se creusent d'une manière abominable et que du coup, on a l'impression que PSG, Bayern, Juve, Barcelone pourraient pas perdre un seul match pendant 5 ans. On a l'impression qu'il y a des écarts qui sont... City en Angleterre cette année aussi. Il y a des écarts qui deviennent affolants et qui inquiètent tout le monde dans le football européen. Parce que ça va plus, quoi. Si on sait les résultats à l'avance,
ça commence à être compliqué.
Que deviendra la Ligue des Champions quand on considérera au début que finalement il y a 4-5 clubs qui peuvent gagner et que la compétition commence en mars,
Les statistiques, oui, effectivement, malheureusement, tendent à le montrer. En tout cas, cette Juventus, elle creuse un petit peu l'écart. Elle pourrait même le creuser plus demain soir parce que elle recevra l'Atalanta sur son terrain. Ce match en retard, qu'avaient les Bianconeri parce qu'il y avait eu des problèmes avec la neige du côté de Rome. En tout cas, écoutons l'entraîneur Massimo Allegri. C'est l'artisan, évidemment, des victoires, mais surtout, il montre bien qu'il ne prend aucun match à la légère.
Si la Juventus n'avait pas trouvé un adversaire comme Naples, l'équipe aurait sans doute une dizaine de points d'avance en championnat. Le même discours, bien entendu, vaut aussi pour Naples. Ce sont deux formations qui sont en train de faire un parcours extraordinaire. Mais je le répète, le Scudetto se disputera jusqu'à la dernière journée. Il y a encore beaucoup de points à s'adjuger avant la fin. La bonne nouvelle avec cette victoire sur Udinese, c'est que nous sommes presque mathématiquement qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions.
Cette course, disons, en tête, la Juve est repassée devant, mais elle ne veut pas déjà, évidemment... Crier victoire, elle a appris quand même cette saison.
D'abord, c'est pas dans la communication, les grands clubs ne tirent pas de plan sur la comète. Et puis, faut pas oublier quelque chose, c'est que Naples pratique toujours le plus beau football d'Italie. Même si la Juve est passée devant, Naples joue très bien et rien n'empêche, puisque le calendrier va s'étirer un peu pour la Juve et pas pour Naples, qu'elle peut lâcher des points. Donc, évidemment, après, elle est repassée devant. Elle a un match en retard, donc elle peut mettre 4 points à Naples. Le Naples qu'on a vu contre la Roma, contre l'Inter, a quand même, et là je marquais une petite différence avec ce que disait Karine tout à l'heure, un vrai coup de moins bien. J'ai l'impression qu'ils ont pris un gros coup derrière la tête contre Rome, qu'ils s'en sont toujours pas relevés. Et donc voilà, la Juve va certainement aller au bout, sans pratiquer un grand football, mais en ayant restructuré son équipe d'abord derrière. Ils ont arrêté de prendre des buts et puis devant Dybala, Higuain, Dybala, tout simplement.
Justement, on va l'entendre, Paolo Dybala, parce que Paolo Dybala, c'est l'atout maître dans cette équipe. Matteo nous disait tout à l'heure qu'il fonctionne très bien avec Higuain, on va y revenir, mais Dybala de plus en plus en confiance.
Je suis vraiment content car on savait qu'aujourd'hui ça pouvait être dur après toutes les émotions vécues en Ligue des Champions. La peur était celle de se présenter sur le terrain trop relâché. Ça n'a pas été le cas. L'équipe a encore une fois montré de la personnalité et de l'expérience. En ce qui me concerne, je viens de rentrer d'une longue période en dehors des terrains et j'ai réussi à inscrire des buts importants pour mon équipe. J'espère continuer sur ce rythme.
Matteo, alors on a ce couple idéal dont vous nous parliez tout à l'heure, un droitier, un gaucher, Higuain, Dybala. Dybala, tout le monde lui fait confiance, peut-être sauf quelqu'un.
Oui, parce que Annie, il faut le dire, Dybala, Higuain, un attaque foudroyant, mais madame et monsieur, la Juve, c'est aussi comme tradition qui se répète, une défense de fer. Faut savoir que la Juve a perdu son dernier match en championnat le 19 novembre dernier, c'était face à la Sampdoria 3-2. Depuis ces jours-là, l'équipe a encaissé un seul but. C'est vraiment, à mon avis, impressionnant. Un but en 14 matchs. Donc, si demain les Bianconeri arrivent à encaisser aucun but contre l'Atalanta, alors ce sera un nouveau record pour le club tourinois, c'est-à-dire 9 matchs d'affilée sans subir un goal. Du jamais vu pour les Bianconeri. Et un grand mérite de cette performance doit surtout être reconnu au couple défensif composé par le Marocain Mehdi Benassia et Giorgio Chiellini. Oui. Benassia est la grande surprise, il a surtout réussi à faire oublier le départ de Leonardo Bonucci. Chiellini, c'est la renaissance, quelqu'un qui a été donné trop vite pour joueur fini. Aujourd'hui, il a retrouvé le brio d'antan.
Et oui, donc on a ce couple à l'arrière et le couple offensif.
Mais
Karine,
j'ai juste une petite question justement sur Benassia qui effectivement fait une belle saison avec la Juve, qui a été plusieurs fois élu joueur du mois. Mais est-ce que c'est si fort que ça? Parce qu'on a vu par exemple face à Tottenham, c'est quand il sort et que notamment Barzagli est remis dans l'axe et n'est plus latéral que la Juve est bien meilleure, que ça soit offensivement parce qu'il y a l'entrée de Lichtsteiner et aussi défensivement où ils étaient moins acculés sur leur propre but, parce que face à Tottenham, alors évidemment, ils encaissent qu'un but, mais les actions ont été énormément du côté des Spurs.
Matteo ?
Oui, il faut alors tout d'abord dire que pour Massimiliano Allegri, Mehdi Benassia est intouchable. 14 fois titulaire sur 18 matchs que le Marocain jouait montre que la confiance du technicien en ce joueur est absolue. En plus, on l'a dit, quand il a à son côté Chiellini, il arrive, et on le voit, on arrive à le lire dans son visage, il arrive à être certainement plus confiant dans ses propres moyens. Allegri l'a toujours dit, Benassia, c'est vraiment quelqu'un qui nous donne un coup de main extraordinaire à l'arrière. Et n'oublions pas que Benassia a marqué le but peut-être signifie Scudetto. C'était avec la Roma.
Oui, effectivement. Philippe?
Ouais, non, je pense que Benatia est un peu sous-estimé parce qu'il est passé dans des grands clubs sans toujours convaincre, très souvent blessé, souvent des problèmes.
Au Bayern notamment. Hein.
Ouais, au Bayern, il est un peu partout où il est passé, il a eu des longues blessures, mais c'est un joueur plutôt sous-estimé. Alors évidemment, c'est pas un joueur très très rapide, mais comparé à Chiellini et Barzagli, il est indispensable, je pense, pour la Juve, parce qu'ils n'auraient pas fait la saison complète qu'ils font aujourd'hui avec Chiellini et Barzagli. Il y a des moments où ils ont fait une fin de match héroïque à Tottenham, à Wembley, d'accord. Mais bon, ils ont tous les deux entre 33 et 35 ans. Faut pas, ils ont l'âme qui est nécessaire pour tenir cette Juve. Mais je pense que Benatia était certainement un des hommes indispensables. Avec un Bonucci qui était quand même le meilleur des défenseurs de la Juve, faut pas l'oublier. Ouais, hein, c'était la base de cette défense. Il est parti parce que le club se fait respecter. Il s'est mal comporté. Le club l'a viré. Ils n'ont pas viré l'entraîneur. Ils ont viré Bonucci. Ils l'ont mis dehors et ils l'ont expliqué, même s'il était indispensable.
Si
et
vous Benatia, écoutez bien Philippe dans cette émission, il y a plein de petites choses à comprendre.
Oui. Hein, non, mais c'est ça les grands clubs. Les grands clubs, c'est ça. Mais c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit quand on pose nous des questions sur Benatia, etc. Mais le football, c'est un sport collectif. Et je trouve qu'on l'oublie trop souvent. Donc on est là à dire ah mais Benatia ceci, ah mais Chiellini cela, ah mais Neymar, ah mais machin. Non mais c'est pas ça le football. Le football c'est un comportement collectif. Il y en a un qui sort des rangs, mais il dégage. Bonucci c'était un des meilleurs joueurs de la Juve, le patron de la défense, le meilleur relanceur de l'équipe, c'est un mec indispensable. Le club a pas hésité une demi-seconde. Et tu respectes pas l'entraîneur, tu sors. C'est pas l'entraîneur qu'on vire. Hein.
Matteo, une petite question qui est restée sans réponse, c'était sur Dybala. Dybala, celui qui le peut-être l'oublie dans sa liste, c'est le sélectionneur argentin.
Oui, Giorgio Sampaoli, qui a préféré convoquer à sa place, il s'appelle Lautaro Martinez, il a 21 ans, on parle très bien de lui, il a été déjà acheté par l'Inter, on le verra la prochaine saison avec le dossard des Nerazzurri, et je crois que Sampaoli a seulement cru que Dybala ne s'est pas encore remis de sa blessure. Ça veut dire qu'il n'a pas regardé le match avec Tottenham ni celui avec Udinese, à mon avis.
Il n'a pas les bonnes...
Non, mais il y a souvent une autre explication pour ces matchs de mars. C'est que Dybala, il sera dans la liste. Il sera dans la liste des 22, des 23. Il n'y a aucun doute à la Coupe du Monde. Il sera un homme important de l'équipe d'Argentine. Et en attendant, il faut regarder les joueurs de 18 à 23. C'est-à-dire les joueurs qui vont... Les 18, Sampaoli, il a sûrement ses 18. Après, de 18 à 23, du 19 à 23, il y a 5-6 postes où il hésite un peu. Comme peut hésiter Deschamps, comme peut hésiter tous les sélectionneurs. Et du coup, un joueur qui est chargé en calendrier, qui a été blessé, qui est rentré de blessure, qui a peut-être joué un peu trop de matchs parce qu'il a fallu accélérer parce qu'il y avait des grands rendez-vous, et ben ce Dybala correspond bien à ce profil de joueur qu'on laisse souffler pour deux matchs amicaux sans grande importance en mars, et il sera là en juin, puis c'est tout.
Alors et attention, il joue avec l'Italie, hein, sans grande importance, un peu de respect s'il vous plaît. Hein.
Oui, certes, mais je sais pas pourquoi. On ne parle pas beaucoup de l'équipe d'Italie en
avec
ce moment.
Avec l'Espagne, c'est sans importance, mais avec l'Italie, c'est très important.
Mais curieusement, on ne parle pas beaucoup de l'Italie en ce moment. Je sais pas pourquoi.
Matteo, Naïm se demandait, est-ce que Icardi a été convoqué aussi?
Non plus.
Non plus. Bon, mais ça, c'est un peu plus logique. Éric Chorin, alors, il y a cette dynamique pour la Juve. Est-ce que, dans vos tablettes, vous voyez cette dynamique durer sur la fin du championnat?
Maintenant, je me posais, la question de savoir si le calendrier, quand même, n'était pas à prendre en compte. On l'a dit, Naples n'a plus la Ligue Europa, la Juve à la Ligue des Champions, la finale de la Coupe face au Milan. Et puis, quand je revois ce que Naples a, en jouant à simplement deux matchs contre les huit premier hein, du championnat, c'est-à-dire il y a le face-à-face évidemment hein, le 22 avril entre la Juve et Naples, mais sinon il y a juste deux déplacements au Milan AC à la Sampdoria Gênes, alors que en face il y a des gros déplacements, et notamment la 37e journée à la Roma, donc l'avant-dernière journée, il y aura un déplacement à l'Inter, il y a aussi la réception de la Sampdoria, du Milan AC et de l'Atalanta Bergame demain. Ça fait quand même un calendrier assez costaud. Peut peser?
Et puis il faut quand même pas voir un truc, c'est que la Coupe d'Europe elle pèse automatiquement, et plus tu vas avancer, plus elle va peser. Une double confrontation contre le Real, contre le Barça, contre le Bayern, si potentiellement les adversaires de la Juve en quart, bien sûr que ça laisse des plumes, parce que tu arrives dans des matchs charnières, que tu fais jouer tout le temps la même équipe, en tout cas les meilleurs, et que ça pèse, et que t'es au mois de mars, t'arrives mi-mars, t'arrives au printemps, dans les dernières journées, physiquement ça commence à se sentir. Donc oui, ça va peser. Naples n'a plus qu'un match par semaine, même si c'est pas une équipe qui tourne beaucoup, automatiquement ils seront plus frais.
Mais il y a une chose qui pèse sur Naples et qui est en train de peser en ce moment, c'est qu'il y avait une très très grande nervosité, parce que le titre était vraiment là, une motivation extrême, et que Sarri, qui n'a jamais rien gagné dans sa carrière, stressait beaucoup, et ce stress, malheureusement il s'est transformé en stress pour toute l'équipe.
Oui, justement Matteo, on le sent ce stress. Il y a eu une réponse qui fait beaucoup parler en Italie, un peu grossière vis-à-vis d'une consoeur italienne. Cette nervosité, elle est rentrée dans le vestiaire de Naples?
On ne sait pas si elle est rentrée dans le vestiaire, mais certainement elle est rentrée dedans. Maurizio Sarri, qui, on l'a vu dimanche soir après le match face à l'Inter, extrêmement tendu, et même, vous l'avez dit, Annie, très impoli envers cette journaliste qui lui a seulement posé une question très facile: est-ce que Naples est encore en course pour le Scudetto?
Et vous, qu'est-ce que vous diriez, Matteo? Est-ce qu'ils sont toujours en course, ou est-ce qu'ils ont un coup au moral?
Bah, écoutez, c'est vrai, le duel est encore ouvert. Il y a au maximum 4 points. Si la Juve gagne demain soir, il y aura 4 points d'écart. 4 points, c'est encore faisable pour Naples. Eric l'a dit tout à l'heure, le calendrier est assez en équilibre pour ces deux équipes. À mon avis, un peu plus facile pour la Juve. Mais c'est vrai que tout à coup, quelque chose s'est assombri du côté de Naples. Il n'y a plus cette confiance qu'on avait vue chez les joueurs il y a tout juste quelques semaines.
Ouais. Bon, Matteo, Eric pense plutôt que c'est difficile pour la Juve, mais
le calendrier, hein, en tout cas.
Le calendrier. En tout cas, c'est un peu à chacun son analyse.
Ça fera quoi? C'est le huitième titre consécutif pour la Juve.
Septième.
Ce serait le septième.
Karine, le summum, évidemment, et ben ça sera la confrontation le 22 avril à Turin. C'est là qu'on saura.
Oui, mais souvenez-vous ce qui s'était passé au match aller. Honnêtement, la Juve avait pas forcément dominé les débats, et
mais
au final,
gagné le match.
Ils avaient gagné 1-0 sur la pelouse du Napoli, et c'était également le remake de l'an dernier, avec notamment Higuain qui avait tué ses anciens coéquipiers et supporters. Donc voilà, sur ces oppositions là, le petit plus qu'à la Juve, on le ressent encore plus. La Juve a un ascendant sur Naples, du fait de son histoire, du fait de ses confrontations sur les saisons passées, où à chaque fois ils en sortent vainqueurs. Et j'ai peur qu'effectivement, sur cette confrontation-là, ça soit encore le cas. Mais comme vous l'avez dit, Naples peut encore se refaire d'ici ce choc entre les deux.
Matteo, tout n'est donc pas encore fini, comme par exemple du côté de l'Angleterre, voire du côté de la France ou de l'Allemagne. Donc on reviendra vers vous très bientôt. Vous serez là?
Ah, absolument, je suis là, je vous attends toujours.
Bon, alors, on attend aussi vos éclairages. Merci beaucoup, Matteo. À bientôt.
Merci à vous.
Neymar, le feuilleton continue avec cette fois un épisode de la telenovela, hein, ça pourrait cadrer pour un des épisodes de ces feuilletons à rallonge au Brésil. Eh bien, une très belle maison dit Mansão là-bas de Mangaratiba, c'est le nouveau carré VIP du Paris Saint-Germain parce que dans la baie paradisiaque au sud de Rio, eh bien Neymar, le pied immobilisé, reçoit. Il reçoit qui ? Alors sa famille, ses amis, sa fiancée bien sûr et les dirigeants du Paris Saint-Germain, le président Nasser El Khelaifi, son directeur sportif aussi, Antero Henrique, visite révélée sur les réseaux sociaux par le papa Neymar Senior, qui a mis donc deux photos où on voit un peu tout le monde. Tout le monde sourit. Qu'est-ce qu'il y a derrière les sourires, Philippe ?
Je sais pas. En tout cas, c'est gentil de la part de Neymar d'avoir accordé audience à son président. Je trouve ça sympathique. Ça aurait pu.
Il aurait pu les laisser à la porte. Non, oui, mais je pense qu'ils sont arrivés par les airs d'ailleurs. Ils ont dû arriver en hélicoptère. Karine, qu'est-ce que ça veut dire ces photos selon vous ?
Ben,
est-ce que ça veut dire Neymar est toujours au PSG et sera toujours au PSG l'an prochain ?
Ah mais ça je pense que dans tous les cas de toute façon le PSG ne le lâchera pas, ça sera un camouflet énorme honnêtement après avoir tant fait pour le faire venir, s'en séparer après une seule saison et donc une nouvelle fois s'agenouiller devant les volontés de Neymar, ça sera un camouflet terrible économique évidemment parce que il y a des millions qui arrivent grâce à la présence de Neymar au PSG et puis également sportivement, mais je trouve ça quand même hallucinant que la direction du PSG aille au chevet de Neymar alors que aujourd'hui ça serait peut-être bien d'être au chevet de l'équipe qui s'est fait ramasser et laminer face au Real Madrid il y a de ça une semaine. Mais si le PSG ne change pas et si le PSG, comme on le dit, ne devient pas une institution ou ne lit pas en boucle ce qu'a dit Sacchi il y a une semaine dans l'équipe, eh ben rien ne changera. Voilà. Je veux dire, quand t'as quand même un coéquipier comme Marquinhos qui limite supplie Neymar de rester au PSG, mais on marche sur la tête. Enfin, je veux dire, Neymar est un employé du PSG, un joueur du PSG, un joueur fabuleux, évidemment, et c'est
très
une
bien
chance
payé
pour le PSG de l'avoir, mais c'est une chance de l'avoir si tu fais les choses bien.
Naïm, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire d'ailleurs ?
Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire ? Je sais pas. Ce qu'ils ont, non, mais ils ont pris des nouvelles. C'est une visite diplomatique. Moi, j'appelle ça une visite diplomatique. On s'assure que Neymar sera encore là parce que la presse espagnole met la pression. Il va aller au Real et puis on sait que le père est toujours un peu ambigu sur l'avenir de son fils. Donc on va faire un tour. On le cajole. A priori, il a pas aimé les sifflets. Il aime pas prendre des coups dans le championnat. Il vivrait un calvaire. Il est pas heureux. Donc voilà. Un peu de câlinothérapie, un petit bisou et puis on va aller dans ta fondation, on va faire un don et puis voilà. En gros, c'est ça. Moi, je pense aussi que Neymar sera encore là la saison prochaine parce que pour le moment, c'est pas le bon moment pour lui de partir. Parce que s'il part, c'est au Real et a priori, Cristiano va encore faire au moins une année. Voilà, j'aime pas non plus cette manière de communiquer, d'aller au Brésil. Il le ferait pas pour un autre joueur. Voilà, donc ça prouve bien quand Karine dit oui, Neymar, c'est un simple employé du PSG. Non, c'est pas un simple employé du PSG.
Mais ça devrait rester un employé du PSG.
Ça devrait, mais moi je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas le cas. Non seulement c'est pas le cas, on sait très bien qu'il est au-dessus d'Emery, au-dessus d'Antero, tout ce que vous voulez.
Donc ça ne marchera
jamais.
Et en plus de ça,
c'est son père qui fait la com du club. Il y a qu'à voir comment ça a communiqué autour de son opération. Donc voilà, le PSG est sur ses arrières.
C'est vrai que c'est assez amusant parce qu'il y a ces deux personnages responsables du club qui sont partis, mais il y a aussi le responsable de la communication du PSG. Et finalement, qui communique, c'est le papa via les réseaux sociaux.
Bon, attention de pas s'y tromper. Jean-Martial Ribes est une sorte de numéro 1 bis du club. Hein. Il est extrêmement proche de Nasser et parfois on se demande même si c'est pas lui, quand Nasser n'est pas là, c'est pas lui qui décide. Il est au club omniprésent et c'est d'un des personnages d'ailleurs qui pose un petit peu problème dans le club, c'est que l'organigramme lui-même du club est flou. Enfin, le club est flou.
Il y a des clans de toute façon au sein de l'organigramme.
En plus. Donc il y a un flou parce que Nasser.
Si vous vouliez savoir ce qu'il lui a demandé, peut-être qu'il lui a demandé qui voulait comme entraîneur l'année prochaine.
Oui,
ça, on sait pas.
Ce serait bien.
Comme c'est un peu Neymar et son père qui vont choisir aussi qui va venir, bon, ça se trouve, il y a déjà une indication.
Au lendemain du match ou au surlendemain, je me souviens de Habib.
Qui ramène pas Scolari, s'il le please, sinon on va prier Habib, avant tous les matchs. Ça va être
Habib qui disait que c'était le gros problème, qu'un joueur pouvait pas être au-dessus d'un club. Eric.
De l'institution. Non, mais je me demandais si le fait que ça soit le père qui communique, c'était pas justement aussi une manière de faire en sorte que ça soit justement la famille Neymar qui envoie un message aussi à Paris. Enfin, vous voyez ce que je veux dire de
ne pas
pas communiquer soi-même ou à l'Espagne et que ça soit cette manière de l'afficher. Voilà, puisque la communication du Paris Saint-Germain se fait par l'intermédiaire du papa.
Oui, ce qui est étrange.
Est-ce qu'on va avoir ce feuilleton jusqu'à ce que Neymar remette le maillot
finale? Il faut reconnaître aussi qu'on l'entretient bien, le feuilleton, parce qu'on aime bien en parler, on aime bien parler de Neymar. On rentre un petit peu dans ce jeu. Parce que Neymar, à Barcelone, il faisait le même genre de petites choses, sauf que de temps en temps, on lui tapait sur la tête, et que de temps en temps, Messi lui disait, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, c'est mieux, donc c'était mieux. C'est-à-dire que de temps en temps, il rentrait quand même au bercail, et puis il revenait dans le cycle normal, et il jouait normalement, mais il était déjà un personnage un petit peu à part. Il est à part. Il a un côté artiste, un peu vagabond, un peu comme ça.
Mais c'est pas ça qu'on lui reproche.
Après, le problème, c'est pas à lui qu'il faut le reprocher, c'est au club.
Oui, non, mais
c'est
bien
au club
sûr.
De s'être écrasé devant tout et d'en avoir fait une idole comme si c'était un mythe.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a signé au PSG, il est devenu plus important que le PSG. Alors que son histoire au PSG ne fait que commencer et que Messi et Ronaldo sont devenus des monstres sacrés au Real et au Barça parce qu'ils ont fait tout gagner au club. Mais quand Ronaldo arrive de Manchester United, c'est pas Saint Ronaldo. Ronaldo, il est entouré d'autres ballons d'or, il est entouré de cadres monstrueux du Real Madrid. Et Messi, bon, lui, il est formé au club. Donc évidemment, il a grandi au club. Mais voilà, à partir du moment où Neymar a posé un pied au PSG, c'est devenu lui tout en haut de la pyramide.
Parce qu'on a basé la com aussi là-dessus, plus que le côté
sportif.
Oui, mais
c'est
sportif,
même pas que la com. Parce
que c'est tout le marketing du club, c'est les recettes marketing aussi. du club, c'est plein de choses.
C'est un projet d'entreprise, Neymar. Hein. C'est pas juste une sportif. Hein. C'est de la logique d'entreprise. C'est du merchandising. C'est tout ça. Donc, mais c'est pas normal. Une fois de plus, c'est pas normal.
Mais je rejoins Karine. Je pense pas qu'il puisse partir cette année. Ce serait le problème du PSG, enfin de l'état du Qatar. C'est quand même son image. Et son image a déjà été dégradée par l'élimination contre le Real, mais ça, on s'en remet. C'est une soirée,
ça s'accumule.
Ce sont des soirées honteuses qui font mal.
Mais ça reste sur le prince, le sportif.
Quand le prince part à la 65e minute, c'est pas par hasard non plus. Il a été humilié devant Beckham et un certain nombre de gens célèbres. Et bon, ça lui pose un problème. Mais ça passe encore. Par contre, si Neymar fait ce qu'il veut à la fin de l'année et arrive à partir. Alors là, on est dans le grand guignol, quoi.
En tout cas, officiellement, le président Nasser s'est rendu, au Brésil aussi pour visiter l'Institut Neymar, qui se trouve à Praia Grande. C'est Jean pas Neymar. Très loin de Santos. Vous en avez marre.
Jean Neymar, oui.
Il y a 2400 enfants, quand même, qui sont dans l'institution. Et voilà, ils recevront la visite du président du Paris Saint-Germain. Eric, on a marre. Merci à tous. J'espère que vous en avez pas marre de nous écouter. Merci à Guillaume Ploquin et à David Finzel. Et à demain.